Je vous propose de lire avec moi d'abord quelques passages de l'Écriture dans l'Ancien Testament principalement. Et le premier passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 9 à partir du verset 8. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai accumulé les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée. Je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu répéta à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » Un deuxième texte, nous le lisons dans le livre de Josué, au chapitre 24, à partir du verset 14. « Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte et rendez un culte à Dieu seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays, quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. » Et un dernier passage, bien connu, le psaume 8. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rébellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. À tes pieds, tu as placé le bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre tout entière. En avril dernier, avec Boschka, nous avons bénéficié d'un cadeau de nos enfants. Deux journées à Versailles pour visiter le célèbre château. Visite pleine d'intérêt qui nous laisse un beau souvenir. Nous avons visité les jardins, nous avons visité les galeries du château en compagnie de beaucoup de visiteurs de tout pays. Nous étions nombreux à nous succéder dans ces visites, chaque salle, chaque galerie. Galerie des glaces, galerie des tableaux, pour citer les plus connus. Pour la visite de cette dernière, la galerie des tableaux, visite qui s'apparentait bien sûr à la visite d'un musée de peinture, nous avancions lentement en nous arrêtant quelques instants devant chaque tableau. En fait, autour de nous, un bon nombre de visiteurs brandissant leur smartphone passer rapidement d'un tableau à l'autre en prenant des photos. Même fonctionnement dans la galerie des glaces et autres salons du château. Qu'ont-ils réellement vu des tableaux, ces visiteurs? Comme on ne prend plus le temps de fixer les images sur la rétine de notre œil, on les fixe sur la mémoire numérique de notre téléphone. Il y a bien longtemps, quand je filmais en Super 8, ça doit parler à quelques oreilles des aînés, quand je filmais en Super 8 il y a une quarantaine d'années, on nous disait que pour bien filmer, il fallait rester au minimum 5 secondes sur une image sans bouger la caméra pour que notre œil ait le temps de capter l'image. Il fallait bien réfléchir à cette époque-là pour savoir et prévoir quelles images, quelles séquences on souhaitait enregistrer, car le film que nous avions mis dans notre caméra ne permettait que 3 minutes d'enregistrement. 3 minutes d'enregistrement. Après, il fallait recharger avec une autre cassette. 3 minutes de prise de vue. Quel contraste avec aujourd'hui. Avec le numérique, on peut photographier et filmer sans limite. Et à quelle vitesse vertigineuse se succèdent les images qu'on voit défiler sur nos écrans. Mais au fait, les voit-on? En contraste absolu avec ces quelques mots, je voudrais ce matin vous parler non pas de jeter un coup d'œil, non pas de voir, non pas même de regarder, mais je voudrais vous parler de contempler. Contempler. À mon avis, et sauf erreur de ma part, une des premières contemplations auquel l'humanité a été conviée par Dieu, c'est celle qui est décrite dans le premier texte que je vous ai lu, à savoir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui se dessine, vous savez dans quelles circonstances, la pluie, les nuages, et puis le soleil, et qui prend des formes diverses et variées, qui a évidemment une caractéristique unique, mais il y a des variétés très grandes d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans la nuée, le signe visible de l'alliance entre Dieu et la postérité de Noé. Une deuxième mention, plus explicite encore, de contemplation, c'est la parole de Dieu à Abraham lorsqu'il le prend par la main, si on peut dire, et le conduit hors de la tente pour lui faire voir le ciel. Vous savez que ce que Dieu lui a dit à cette circonstance. Dieu a dit à Abraham, lorsqu'il était hors de sa tente, « Regarde vers le ciel et contemple les étoiles, si tu peux les compter. » Pardon, je me suis laissé emporter par mon sujet. Ce n'est pas « contemple les étoiles », c'est « compte les étoiles ». Mais pour les compter, il faut les contempler. « Compte les étoiles, si tu peux les compter. » Telle sera ta postérité. Et puis, le psaume que nous avons lu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Contempler le ciel, je pense que ça arrive quand même à la plupart d'entre nous, à beaucoup de monde, heureusement. Contempler le ciel, contempler les paysages, contempler la nature, contempler la création. Mais contempler la création, c'est contempler Dieu. C'est contempler l'œuvre de Dieu, donc contempler Dieu. Dieu le Créateur. Vous connaissez ce texte dans les Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et il y a bien d'autres textes qui nous soulignent cette même réalité. À qui me comparerez-vous ? Pour que je lui ressemble, dit Dieu dans Ésaïe 40. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui est-ce qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Et puis, nous connaissons la fin des textes de Job. Quand il y a ce dernier dialogue entre Job et Dieu, et où Dieu l'interpelle en lui disant « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclatés en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, etc. » Ces derniers chapitres décrivent avec toute une poésie, tout un art admirable, cette création de Dieu. Dieu se voit, Dieu se contemple dans sa création. Dans un autre style, mais dans la même pensée, de contempler le Seigneur, nous avons au psaume 27 cette prière du psalmiste. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » contemplez la grandeur de Dieu, admirez son temple. Premier chapitre dans le sujet de la contemplation, celle que nous pouvons et que nous devons, et pour laquelle nous devons éprouver une profonde joie, portée vers tout ce que nous pouvons admirer de Dieu lui-même, le Créateur, de sa création, de ses œuvres dans la création. Ensuite, nous sommes invités à contempler les œuvres de Dieu dans l'histoire, en particulier, de son peuple. Je ne vais pas trop développer ce sujet que nous avons et que nous continuons de parcourir abondamment, mais dans l'histoire du peuple d'Israël, nous avons à contempler l'œuvre de notre Dieu. J'évoque quelques passages bien connus dans son action de délivrance. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il l'a conduit au bord de la mer, et au moment où il était coincé entre la mer et l'armée des Égyptiens, Dieu a accompli cette grande délivrance de la traversée de la mer Rouge. Et qu'est-il dit à ce propos ? Vous connaissez cette parole de Dieu que Moïse a transmise à son peuple. « Ne craignez rien, restez en place, dit Moïse à tout le peuple, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dans le Deutéronome, nous lisons « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. » Toute l'histoire de cette conduite du peuple dans le désert et après dans le pays de la promesse, c'est l'histoire de l'œuvre de Dieu, de son action libératrice et son action aussi pour apprendre à son peuple à se confier en lui, dans la foi. Il lui donnera la loi, vous connaissez, tous les hauts faits de l'Éternel. Nous pourrions évoquer justement ces hauts faits quand les textes nous en parlent, les psaumes en particulier. Il s'agit la plupart du temps des victoires que Dieu accorde à son peuple. Troisième chapitre de contemplation. Contempler la loi de Dieu, ses préceptes et sa parole. Et là, nous avons évidemment cette magnifique description de toute cette loi de Dieu qui est si belle et qui fait l'admiration du psalmiste. Je ne vais pas vous lire tout le psaume 119, mais au cœur de ce psaume, il y a cette parole « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Les merveilles de la création, les merveilles de la délivrance, et maintenant les merveilles de la loi de Dieu. Quelques versets parmi ce très grand nombre du psaume 119. Je médite tes ordonnances, ouvre mes yeux pour que je contemple ces merveilles de ta loi. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. En ce qui concerne la loi de Dieu, le mot méditer équivaut à la contemplation de la création. Prendre le temps de bien considérer, de bien regarder, de bien peser les différents éléments. Et le psalmiste désire comprendre la loi de son Dieu. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je vous le redis celui-là parce qu'il est moins connu que les autres. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Si je n'avais pas savouré tout ce que tu dis dans ta parole, si je ne m'étais pas nourri de ton enseignement, j'aurais eu beaucoup de probabilités d'être découragé, d'être triste, d'être affligé, d'être accablé. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont pas de limite. Combien j'aime ta parole, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quelle richesse que celle de la parole de Dieu, de ses préceptes et de ses lois. Nouveau chapitre de contemplation, évidemment. Contemplation de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu pour révéler le Père. Un des premiers qui a témoigné qu'en voyant Jésus-Christ, il avait vu quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la révélation de Dieu, c'est bien sûr Siméon, à qui les parents de Jésus, au moment où il venait de naître, ont amené cet enfant à Siméon. Et vous savez ce que Siméon a dit en prenant l'enfant dans ses bras, en bénissant Dieu de l'avoir envoyé. « Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. » Et puis la vue du tombeau vide à l'autre bout du chemin de Jésus et tout ce qu'il a fait tout au long, évidemment, de son parcours terrestre. La vue du tombeau vide, le disciple qui avait couru moins vite que Pierre entra dans le sépulcre. Et qu'est-ce qu'il vit ? Il vit le tombeau vide. Et le texte nous rapporte cette très brève observation, il vit et il crut. Il vit et il crut. Et quand plus tard, Jésus ressuscité vient se révéler à ses disciples, il rencontre la deuxième fois Thomas, qui doutait. Et le Seigneur lui a dit, je t'ai vu, je savais qui tu étais. Et alors quand Thomas s'est rendu compte que c'était Jésus parce qu'il savait, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a répondu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et Jésus dira, dans ses conversations avec les pharisiens, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et quand Jean-Baptiste a envoyé depuis sa prison des disciples de Jean pour interroger Jésus et lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Qu'est-ce que Jésus lui a répondu après avoir accompli des miracles de guérison ? Jésus dit aux disciples de Jean, « Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Contemplez l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et l'apôtre Jean dit, « La parole a été faite chair. » Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les disciples qui ont été avec Jésus ont eu quelques circonstances particulières où nous avons le témoignage qu'ils ont contemplé la gloire de Dieu à la transfiguration, par exemple, d'une façon tout à fait extraordinaire. Mais dans les actions permanentes de Jésus en faveur des pauvres, des malheureux et des malades, ils ont contemplé l'œuvre de Dieu, la gloire du Seigneur, comme la gloire du Fils unique venu d'après le Père. Et je terminerai ce bref parcours par une comparaison entre la contemplation et l'action. En effet, quand je me suis aventuré dans ce sujet, je me suis dit, je vais annoncer que je vais parler de contempler. Peut-être y aura-t-il parmi nous quelques personnes qui ne sont pas spécialement portées à la contemplation. Il pourrait dire peut-être, moi je ne suis pas un contemplatif, je suis un actif. Et si vous regardez le dictionnaire, c'est vrai que dans une certaine perspective, on peut opposer, d'une façon un peu caricaturale, les contemplatifs et les actifs. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ne sont que contemplatifs et des gens qui ne sont que actifs. On est un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Enfin, ça, c'est des questions de tempérament. Mais j'étais content quand même de trouver au moins deux textes qui lient les deux réalités, la contemplation et l'action. Deux textes importants. Le premier se lit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 14 à 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons et reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est Esprit. Dans cette traduction, j'ai mis deux mots, alors que dans la plupart des textes, il y a simplement le mot contempler. Mais c'est que l'apôtre Paul, dans ce texte, emploie un mot rare auquel deux sens peuvent être attribués. Le verbe grec est, le verbe employé ici dans notre texte, est à la voix moyenne. Il exprime la participation du sujet comme intéressé personnellement à l'action. Et il transforme la réceptivité passive en réceptivité active. C'est pour cela que, si on veut être complet, il faut traduire ce verbe par les deux mots, contempler et refléter. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons et reflétons la gloire du Seigneur. Et nous avons là, en effet, ce lien intense et important entre ce que nous recevons du Seigneur et ce que nous sommes appelés à apporter à ceux qui sont autour de nous, le témoignage à ceux de notre génération. Contempler et refléter. Contempler et transmettre. Contempler et faire voir quelque chose de Jésus-Christ, de ce que le Seigneur nous a donné. Puis le deuxième et dernier texte que je voudrais évoquer avec vous se lit dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, les versets 23 à 25. Si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, la loi de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. C'est sous une autre forme exactement la même réalité que celle que je viens d'évoquer. Ne pas simplement jeter un coup d'œil, mais s'attacher à méditer la parole du Seigneur, celui qui se sera penché, qui aura scruté la loi parfaite la loi de la liberté et qui s'y est appliquée, non un auditeur distrait, mais un réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Le Seigneur nous fait cette grâce de se révéler à nous, de se donner à nous dans sa parole et par son esprit, et de faire de nous des témoins de ce que nous avons reçu, de ce qu'ils peuvent aussi apporter aux autres, ce que Dieu leur a donné. Une image du Seigneur, de sa grâce, de sa grandeur, de sa puissance et de sa gloire. Soyons des contemplateurs du Seigneur et des réalisateurs agissants du témoignage pour lequel il nous a sauvés et pour lequel nous le bénissons tous les jours de notre vie. Amen.